Voilà, bonsoir, bienvenue. Donc, on reprend notre cycle de conférences. Ce soir, des thèmes très, très importants, donc, situation et défis de la famille en Europe. Et nous avons la chance, pour nous aider à réfléchir sur ce thème, d'accueillir, c'est avec plaisir qu'on peut l'accueillir, c'est Antoine Renard. Ingénieur des mines, il a mené une longue carrière professionnelle dans les industries pétrolières, minières et des constructions ferroviaires. Donc, il a assuré plusieurs postes à la direction d'entreprise en contexte international. Et il était président de la Confédération nationale française des associations familiales catholiques de 2007 à 2014 et préside depuis 2009 la Fédération des associations familiales catholiques en Europe, donc la FACE. Il est aussi membre du comité économique, social et environnemental français. Donc, beaucoup d'expérience. Donc, sans doute, il va nous aider dans notre réflexion. Et comme d'habitude, donc, nous avons la séquence suivante. Donc, après la conférence de notre invité, 40-45 minutes, un professeur de théologie va proposer en quelques minutes sur le sujet un contrepoint théologique. Ce sera le père Alain, hein, ce soir. Et puis, on va parmi notre débat et le dialogue avec l'auditoire, et il sera animé par le père Thierry. Monsieur Renard,
merci à vous. Beaucoup. La famille est importante pour la survie de l'humanité. S'il n'y a pas de famille, c'est la survie culturelle de l'humanité qui est en danger. Qu'on le veuille ou non, la famille, c'est la base. C'est ainsi que s'exprimait le pape François à la radio de Rio de Janeiro en 2014, il y a déjà 5 ans. Pourquoi ces propos un peu inquiétants? Eh bien, ça va être l'objet de la première partie de ma présentation. Je remercie les organisateurs de me faire l'honneur de m'exprimer devant vous. Comme nous sommes dans un institut théologique de théologie catholique, que je suis introduit comme le président de la Fédération des associations familiales catholiques, j'espère, vous ne m'en voudrez pas, de truffer mon discours de référence à l'enseignement des papes et à l'enseignement social de l'Église catholique. Je précise d'ailleurs tout de suite que la fédération que je représente n'a pas pour vocation, ni pour prétention, d'élaborer l'enseignement social de l'Église catholique, mais simplement de le mettre en pratique. Et d'ailleurs, à ce titre, elle ne dit pas des choses qui sont réservées aux familles catholiques, elle dit des choses qu'elle croit vraies pour toutes les familles. Ses propositions s'appuient sur l'enseignement social de l'Église catholique, et c'est tout ce que signifie, mais c'est déjà beaucoup, cette appellation catholique. Nous ne sommes pas un mouvement pastoral, nous ne portons pas la parole des évêques, nous ne parlons pas leur nom, nous sommes simplement des familles qui trouvons utile pour tous de trouver l'inspiration de nos propositions dans l'enseignement de l'Église. Puisque nous approchons des élections européennes, il va s'agir de s'intéresser à l'Union européenne. Et naturellement, d'autant plus qu'on a célébré beaucoup d'anniversaires ces derniers temps, l'Union européenne peut faire état d'un bilan, à certains égards, tout à fait positif. On peut parler de la paix, même si d'aucuns disent que c'est pas l'Europe qui a fait la paix, mais la paix qui a fait l'Europe, ou plutôt qui a fait l'Union européenne. L'Union européenne a mis en place un marché unique, dont nous voyons les avantages. L'Union européenne a été capable, plus ou moins bien, mais enfin elle a été capable, d'accueillir en son sein les pays d'Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin, dans une relative impréparation, malheureusement, mais enfin on l'a fait. On peut aussi faire état des fonds structurels et d'investissement stratégique. Je ne sais pas si vous connaissez cette mécanique, mais enfin c'est quelque chose qui marche assez bien, c'est-à-dire que les pays riches cotisent pour aider les pays pauvres à rejoindre le niveau, et on peut le constater. Par exemple, en visitant toutes les capitales européennes, y compris celles de l'Europe de l'Est, pour constater qu'elles ont été rénovées et que maintenant on se sent partout dans un niveau de développement des infrastructures qui s'homogénéise. Et puis on peut parler du succès d'Erasmus, même si là aussi on peut regretter qu'il ne s'adresse trop souvent encore qu'à une certaine élite. Mais voilà. Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe, avait prévenu en disant « Ce projet ne pourra pas rester une simple initiative économique et technique. Il lui faut une âme, la claire conscience de ses affinités historiques et de ses responsabilités présentes et futures, un projet politique au service d'un même idéal humain. » Alors la question, elle est bien de savoir où en est cet idéal humain. Et il faut reconnaître que le bilan humain de cette construction de l'Union européenne, vu de la famille, n'est pas bon. La référence que je faisais en début de propos, à partir du pape François, faisait un lien entre la culture et la famille, en disant « S'il n'y a pas de famille, c'est la survie culturelle de l'humanité qui est en danger. » Eh bien, malheureusement, nous avons assisté à un renversement. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la famille qui inspire la culture de l'humanité, c'est la culture qui se retourne contre la famille. Bilan humain vu de la famille. L'Union européenne, c'est 21 millions de chômeurs, dont 10 de longue durée. Ça veut dire autant de parents qui n'ont pas l'honneur, la joie, de nourrir leur famille du fruit de leur travail. Il leur faut des allocations. Elles existent, certes, mais enfin, ce n'est pas le même niveau. L'Union européenne, c'est 50 millions de personnes qui vivent seules. Et la Bible dit, dès la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. 50 millions de personnes vivent seules en Europe tous les jours, et ce chiffre naturellement augmente, à la fois avec le vieillissement de la population et avec les divorces. L'Union européenne, c'est 1 million de divorces chaque année, une augmentation de 30% depuis 1975 et de 100% en 40 ans. L'Union européenne, c'est 2,2 millions de mariages, c'est-à-dire une baisse de 36% depuis 1975. Et d'ailleurs, petite incidence sur le plan culturel, bien souvent on rapproche ces chiffres, 2 millions ou un peu plus de mariages, 1 million de divorces, pour dire à tout le monde, un mariage sur deux finit en divorce. Je dénonce une escroquerie. Pour tous ceux qui ont fait des maths, vous savez bien qu'on ne peut pas comparer des flux et des stocks. Car enfin, quand on compte le nombre de mariages et le nombre de divorces d'une même année, ce n'est pas les mêmes gens qui se sont mariés cette année-là qui divorcent. Ceux qui divorcent se sont mariés, sans doute pas cette année-là, mais 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Et donc ce chiffre est faux, mais il est culturellement dans les esprits. Et je vous laisse imaginer l'effet sur les jeunes de cette information. Si vous vous mariez, vous avez une chance sur 2 que ça loupe. Ben, ça vaut pas la peine. Les naissances hors mariage ont été multipliées par 2. Et comme les chiffres sont têtus, 1 million, c'est aussi le chiffre des avortements en Europe chaque année, dont, j'ai honte de le dire, 220 000 en France. Et puis l'Union européenne, c'est aussi, et c'est ce texte sur lequel je crois l'équipe a travaillé ce matin, l'étude produite par la Fondation Robert Schuman cette année, qui s'intitule « Europe 2050, un suicide démocratique ». Le taux de fertilité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme en âge de procréer, est en moyenne dans l'Union européenne de 1,5. Pour renouveler les populations, il faudrait 2,1, 2 ou 3, en tout cas supérieur à 2. Aucun pays de l'Union européenne ne renouvelle ses populations. Aucun. Jusqu'à une certaine époque, il y avait encore la France et l'Irlande. C'est fini. Le nombre de décès depuis 3 ans est supérieur au nombre de naissances. Et donc, le bilan démographique est négatif. Alors, en fait, dans les chiffres, il ne l'est pas, parce qu'il est compensé par l'immigration. Les chiffres montent, et ce ne sont pas des statistiques, ce ne sont pas des évaluations. Il n'y a rien de plus sûr que la démographie. Les enfants qui ne naissent pas aujourd'hui n'auront pas 50 ans dans 50 ans. Ça, tout le monde le comprend. La démographie, il n'y a rien de plus sûr. Et pourtant, curieusement, on ne découvre ces effets qu'avec énormément de retard. Mais on sait aujourd'hui qu'en 2050, c'est dans pas très longtemps, un tiers de la population européenne aura plus de 65 ans, alors que seulement 1 sur 7 aura moins de 15 ans. On peut également citer l'exemple de l'Italie. L'Italie, grand pays catholique où tout le monde a en tête que ce sont des grandes familles nombreuses. Il y a longtemps que c'est plus vrai. En 2050, 90% des Italiens n'auront pas l'expérience personnelle de ce que c'est un frère, une sœur, un cousin ou une cousine. 3 générations d'enfants uniques. Autrement dit, on ne saura ce que c'est qu'une fratrie que par la littérature et par le récit des grands-parents, s'ils le veulent bien. Et pourtant, la famille est une réalité existentielle dans toute l'Union européenne. 80% des Européens vivent en famille. Donc ça vaut la peine qu'on en parle. 80%. 75% des enfants de moins de 18 ans vivent quotidiennement avec leurs 2 parents. Alors bien sûr, et à juste titre, on s'intéresse aux ruptures familiales, parce qu'il y a de la misère, il y a du malheur, il y a des conséquences sociales importantes, évidemment. Mais si on regardait le gros des troupes, je répète, 80% des Européens vivent habituellement en famille. Et puis il y a aussi les sondages. Les sondages qui montrent que la famille est ratifiée par tout le monde. C'est la première aspiration des jeunes. Fonder une famille et avoir des enfants, c'est le souhait le premier ratifié par les jeunes dans tous les sondages, plus que de gagner de l'argent, plus que d'être un sportif célèbre ou même un homme politique ou de gagner une notoriété théâtrale ou autre. Non, le premier souhait, c'est de trouver l'âme sœur et de rester avec elle durablement et de fonder une famille. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? La famille est-elle toujours la cellule de base de nos sociétés, comme le disent tous les textes fondamentaux, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'enfant, la Convention universelle des droits de l'enfant, et même des textes qui nous sont plus particuliers en Europe, comme la Charte sociale européenne. La famille est-elle toujours la cellule de base de nos sociétés ? Et là, nous rejoignons un sujet culturel. Et cette histoire culturelle, elle a trait aux droits de l'homme. Et je vais donc être conduit à parler d'une autre institution de l'Europe, qui n'est pas celle de l'Union européenne, mais qui est celle du Conseil de l'Europe, une autre réalité avec 47 pays, présente l'avantage qu'y participent la Russie et l'Ukraine. Vous imaginez la teneur des débats. C'est la première institution qui a été créée en Europe au lendemain de la guerre, peu de temps après d'ailleurs qu'ait été proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Organisation des Nations Unies. L'Église s'est beaucoup intéressée à cette affaire des droits de l'homme. L'un des rédacteurs, Jacques Maritain, très catholique, très proche du Vatican, a fait beaucoup d'efforts pour appuyer cette Déclaration universelle des droits de l'homme sur la dignité de la personne humaine. Et de fait, jusqu'à un certain point, il a réussi. Encore une fois, c'est à la suite des deux guerres mondiales qui ont enflammé l'humanité tout entière que les dirigeants se sont dit « on ne peut pas continuer comme ça, nous devons faire en sorte que la dignité de la personne humaine soit reconnue, respectée et fasse l'objet de cette déclaration universelle des droits de l'homme » qui, partant de la dignité, se poursuit dans quantité d'applications qui sont autant d'obligations que se font les États. Car encore une fois, une déclaration, c'est une déclaration signée par des États qui s'engagent à la respecter. Mais c'est pas moins, mais c'est pas plus. L'ennui de cette affaire, c'est que Jacques Maritain a essayé désespérément de lier cette notion de dignité de la personne humaine à la transcendance. Et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce qu'il y a eu deux objections majeures. Le premier est venu de Staline. Bien sûr, Staline était à la table de l'ONU, c'était un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et Staline s'est opposé à toute référence à la transcendance pour les raisons qu'on connaît. Et le deuxième, curieusement, qui était d'ailleurs, semble-t-il, plus intransigeant encore, c'était les Anglais. Les Anglais ont une conception libérale du monde telle qu'ils ne pouvaient pas admettre qu'une déclaration universelle fasse référence à la transcendance. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, le Conseil de l'Europe, qui est venu en 1949, donc après la Déclaration universelle des droits de l'homme, a éprouvé le besoin de rédiger une Convention européenne des droits de l'homme. Et on voit déjà quelques dérives. Par exemple, s'agissant du mariage, la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme « L'homme et la femme en âge nubile ont droit de se marier et de fonder une famille. » Ça veut dire que le droit de se marier est lié à la famille et que par conséquent, ce n'est pas un droit personnel ou un droit individuel. À travers l'exercice de ce droit au mariage, il y a la perspective de famille et famille bénéficiera du soutien de la société. C'est ça que veut dire cet article. C'est dans cette affaire, il y a trois partenaires. Il y a l'homme, la femme et la société. La société prend acte du fait que l'homme et la femme se marient pour fonder une famille et garantit la protection à la famille. Elle ne garantit pas la protection au couple. Le couple, c'est son affaire. Elle garantit la protection à la famille. La Convention européenne des droits de l'homme n'a au départ pas dit autre chose. Mais ensuite, elle a été complétée par la Charte des droits sociaux, qui cette fois-ci dit simplement que le droit de se marier respecte le droit de chacun des pays dans lesquels sont les gens. Cette simple expression, le mariage devient un droit individuel et non plus le droit d'un couple en face de la société. Ce qui est préoccupant dans cette histoire de la Convention européenne des droits de l'homme, dont vous savez qu'elle est le texte fondateur du Conseil de l'Europe et dont elle est le texte de référence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont Robert Schuman disait que c'était d'ailleurs la utile des institutions à sa création. Pourquoi ? Parce que, justement, puisqu'on avait attribué les responsabilités de ces guerres mondiales au fait que des États dictatoriaux avaient entraîné leur population dans des aventures folles, il s'agissait de protéger les populations contre la folie éventuelle des dirigeants et le retour des idéologies et des dictatures. Donc cette Convention européenne des droits de l'homme, elle était à l'origine, destinée à permettre aux citoyens de signoyer, de signaler devant une cour et de traîner devant une cour de justice un État qui s'écarterait de cette convention. L'ennui de cette affaire, c'est que, notamment à l'occasion de d'un de ses récents anniversaires, la Cour européenne des droits de l'homme elle-même a expliqué qu'elle comprenait son rôle comme une interprétation évolutive de la Convention. Donc les juges considèrent non pas qu'ils ont à appliquer la Convention, mais à en faire eux-mêmes une interprétation évolutive. Interprétation évolutive en fonction de quoi ? Mais en fonction de l'évolution de la société. Et nous sommes dans un cercle vicieux. La société évolue, la Convention prend acte, la Cour européenne des droits de l'homme prend acte de cette évolution, le fait rentrer dans sa jurisprudence, et la Convention se transforme et permet des évolutions ultérieures de la société. Et à quoi tout ça conduit ? Ça conduit à des exigences de plus en plus importantes et de revendications individuelles, d'autant plus que, à mesure que la société évolue, l'individualisme et le relativisme, comme l'avait annoncé le pape Benoît XVI, ont fait des progrès considérables, et la Convention devient un outil au service d'une extension sans limite des revendications de droits individuels. L'expression nouvelle, d'ailleurs, elle est maintenant de revendiquer des droits nouveaux. Il s'agit constamment de créer des droits nouveaux. Et tout se passe comme si les États, ou leurs représentants, ou le Conseil de l'Europe, ou les juges, s'étaient attribués tous les droits et les restituaient aux individus à mesure que la société devient assez mûre pour les comprendre et les mettre en œuvre. Et c'est une inversion complète. Parce que, à l'origine, il y avait les droits présentés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, soulignés par le pape Jean XXIII dans Pacem in Terris, comme universels, inviolables, inaliénables. Ils étaient liés à la dignité de la personne humaine, et cette notion de dignité s'appuyer dans l'esprit assez largement des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en tout cas de sa partie catholique, s'appuyer sur ce lien à la transcendance, alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus le sentiment que cette perception de la dignité de la personne humaine dépend davantage de l'opinion que chacun se fait de lui-même. C'est là qu'est le relativisme. Ça n'est plus une dignité intrinsèque, c'est une dignité qui résulte du regard que je pose sur moi-même. Et vous voyez, à partir de là, tous les champs possibles d'extension, en effet, des droits individuels, qui vont de l'avortement à l'euthanasie. En droit, il n'y a plus rien qui l'empêche. D'autant plus qu'on a inventé des concepts, parce que maintenant le concept prévaut sur le réel, et notamment celui de la discrimination, ce mot le plus piégeant qui soit possible. Or, encore une autre petite chose pour vous dire comment est inspirée cette conception évolutive des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des principes de Jakarta. Les principes de Jakarta ont été édictés en 2006 par un groupe d'intellectuels, de sociologues, qui ont réfléchi aux principes de la mise en œuvre des droits humains, puisqu'entre-temps les droits de l'homme étaient devenus les droits humains par un détournement de vocabulaire passant par l'anglais. Les droits de l'homme sont devenus les human rights, et les human rights se traduisent les droits humains. Entre les deux, la différence est énorme. Au milieu de ces principes visant à prévoir et anticiper l'évolution des droits humains internationaux, Les principes de Jakarta incorporent toute une partie relative à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est en fait très exactement l'agenda LGBT. Pas besoin d'expliquer le sigle, tout le monde connaît. Je vous lis simplement l'article 24 qui concerne le droit de fonder une famille. Ces principes disent « Chacun a le droit de fonder une famille indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. La famille existe sous diverses formes. Aucune famille ne doit faire l'objet de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle de l'un ou l'autre de ses membres. » Et cet article 24 est assorti d'incitations à l'égard des États qui doivent assurer que le droit de fonder une famille, qui doivent assurer le droit de fonder une famille, y compris l'accès à l'adoption ou à la PMA, sans discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Et deuxièmement, assurer que les lois et les politiques reconnaissent la diversité des formes de famille, y compris celles non fondées sur le mariage et la filiation. Et ensuite, lutter contre les discriminations, y compris au travers des aides sociales et tout autre avantage public, l'emploi et la migration. Alors, évidemment, ces principes de Jakarta n'ont aucune valeur législative. Ce ne sont pas des textes qui ont été votés par un Parlement, ni par des chefs d'État. Mais je vous explique ça parce que c'est ce qui inspire la culture qui règne aujourd'hui auprès de ceux qui ont en charge la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, comment est-ce que l'Église a réagi à tout ça? Eh bien, elle a très vite compris les dangers, y compris le regret qu'elle avait de ne pas avoir pu inclure la référence à la transcendance dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans Gaudium et Spes, un des grands textes conciliaires qui date de 1965, l'Église a proclamé solennellement les droits de l'homme en vertu de l'évangile qui lui a été confié. Mais elle a assorti cette reconnaissance d'une réserve qui s'avère aujourd'hui justifiée. En effet, l'Église dit « L'Église reconnaît et tient en grande estime le dynamisme de notre temps qui partout donne un nouvel élan à ses droits. » Ce mouvement doit toutefois être imprégné de l'esprit de l'Évangile et garanti contre toute idée de fausse autonomie. Et c'est bien cette fausse autonomie qui domine à présent la compréhension des droits de l'homme. Gaudium et Spes poursuit, nous sommes en effet exposés à la tentation d'estimer que nos droits personnels ne sont pleinement maintenus que lorsque nous sommes dégagés de toute norme de loi divine. Mais en suivant cette voie, la dignité humaine, loin d'être sauvée, s'évanouit. Le pape Jean-Paul II, grand pape de la famille, a de son côté, il a été un des grands acteurs du Concile, comme on sait, très préoccupé par cette évolution du droit. Il a éprouvé le besoin, après la rédaction de l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, de demander la rédaction d'une charte des droits de la famille, qu'il a proposée aux législateurs européens en tout premier. Cette charte porte sur 12 points, elle est facile à trouver, mais elle commence par dire que la famille est antérieure à l'État. Et voilà bien un sujet extraordinairement important. Quand on y réfléchit, en effet, il n'y aurait pas d'État si à l'origine il n'y avait pas eu des familles. La famille, ou la famille générative, la famille où se transmet la vie, elle est antérieure à l'État. Les familles ont eu besoin d'un État quand elles ont pris conscience qu'elles avaient des choses à faire en commun, qu'elles avaient besoin de se protéger, qu'elles avaient besoin d'exprimer leur puissance. Et malheureusement, depuis, on a perdu le sens de l'État. Je crois qu'on ne sait plus ce que c'est qu'un État. L'État, c'est l'organe de puissance de la communauté. Personne n'a envie d'être faible. Mais l'expression de cette puissance, elle se fait au travers d'un État à qui on assigne un certain nombre de tâches, et non pas un État qui dispose de tous les droits, et les redistribue à ses citoyens en fonction des circonstances. Le pape François, à son tour, est revenu sur ce sujet. Il n'a fait qu'une seule intervention auprès du Parlement européen, dans un discours qui a été applaudi debout par tous les députés. Il a d'ailleurs fait un autre discours à la Cour européenne des droits de l'homme. Je m'attache simplement pour l'instant à quelques remarques à partir du discours du pape François donné au Parlement européen à Strasbourg le 25 novembre 2014. Les salutations d'usage, le pape dit « Je viens vous adresser un message d'espérance fondé sur la confiance que les difficultés peuvent devenir des promotrices puissantes d'unité pour vaincre toutes les peurs que l'Europe avec le monde entier est en train de traverser. Un message d'espérance et d'encouragement. Encouragement pour revenir à la ferme conviction des pères fondateurs de l'Union européenne qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions, favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du continent. Au centre de cet ambitieux projet politique, il y avait la confiance en l'homme, non pas comme citoyen, ni comme sujet économique, mais en l'homme comme personne dotée d'une dignité transcendante. Et nous y revoilà. Je tiens avant tout, dit le pape François, a souligné le lien étroit qui existe entre ces deux paroles, dignité et transcendant. La dignité est une parole clé qui a caractérisé la reprise du second après-guerre. Notre histoire récente se caractérise par l'indubitable centralité de la promotion de la dignité humaine contre les violences multiples et des discriminations qui, même en Europe, n'ont pas manqué dans le cours des siècles. Et dit le pape à peine plus loin, promouvoir la dignité de la personne signifie reconnaître qu'elle possède des droits inaliénables, Jean 23, Pacem in Terris, dont elle ne peut être privée au gré de certains et encore moins au bénéfice d'intérêts économiques. Mais il convient de faire attention pour ne pas tomber dans des équivoques qui peuvent naître d'un malentendu sur le concept de droits humains et de leur abus paradoxal. Il y a en effet aujourd'hui la tendance à une revendication toujours plus grande des droits individuels, je suis tenté de dire individualiste, qui cache une conception de la personne humaine détachée de tout contexte social et anthropologique, presque comme une monade, toujours plus insensible aux autres monades présentes autour de soi. Au concept de droit, celui aussi essentiel et complémentaire de devoir ne semble plus associé, de sorte qu'on finit par affirmer les droits individuels sans tenir compte que tout être humain est lié à un contexte social dans lequel ses droits et devoirs sont connexes à ceux des autres et au bien commun de la société elle-même. Le pape reprendra cette idée dans l'encyclique Laudato Si, où il dénonce ses droits individuels qui, à force de vide existentiel, conduit chacun à se concentrer sur le consumérisme, à consommer davantage, sans égard, ni pour la société, ni pour les pauvres, ni pour la planète, car, dit le pape, tout est lié. Je vais venir à des choses un peu plus optimistes, et je l'espère avec un peu plus d'espérance, mais j'ai voulu vous faire ce constat parce que la question était bien, quelle est la situation et quels sont les défis pour la famille? La situation, je vous l'ai présentée, la famille ne va pas bien, les défis, la culture est contre elle. Petit résumé de cette partie, c'est une conversation avec le cardinal Barbarin à Dublin à l'occasion des Journées mondiales de la famille, en septembre dernier. Et le cardinal Barbarin, dans une conversation privée mais très détendue, à qui on demandait ce qu'il fallait faire, répond « Moi je demande à Jésus tous les jours comment faire pour témoigner de son évangile dans ce monde, mais je vais vous dire, c'est une civilisation qui s'auto-détruit. » Il y a 15 jours, toujours dans une conversation privée, mais cette fois-ci à Bruxelles, avec le patriarche orthodoxe de l'église de Chypre. Je lui raconte cette conversation avec le cardinal Barbarin, et avec un petit sourire, il me dit « Mais j'en arrive aussi à cette conclusion, et le pire, c'est que c'est au nom des droits de l'homme. » Alors le pape Jean-Paul II, qui avait beaucoup pensé à nous, a en effet rédigé l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, dans laquelle il dit, à l'article 44, « Il revient en premier lieu aux familles elles-mêmes de devenir les protagonistes de ce qu'on appelle la politique familiale, de s'assurer que les lois et les règlements non seulement ne blessent pas la famille, mais les soutiennent positivement, et de transformer la société. » Et ajoute-t-il, « Faute de quoi, les familles seront les premières à souffrir des maux qu'elles se seront contentées de constater dans l'indifférence. » Il nous avait tout dit. Et c'est probablement cette exhortation qui justifie le vaste mouvement des associations familiales, qui avait commencé bien avant. Il existe des associations familiales en France depuis 1905. Les associations familiales catholiques se sont créées dès 1905. Elles ont commencé par des choses très concrètes et très simples. Par exemple, les familles des campagnes achetaient une machine à laver commune. Et ensuite, la machine à laver circulait de maison en maison. C'était de l'entraide matérielle. C'était des familles qui, localement, prenaient soin les uns des autres. À mesure que l'histoire s'est complexifiée, ces associations familiales ont pris conscience qu'elles avaient une connaissance des besoins fondamentaux, des aspirations des familles, qui avaient tendance à être négligées par l'évolution industrielle, technique, scientifique, et que donc elles devaient progressivement tenir une parole un peu plus politique. Voilà comment tout ça s'est créé. Notre fédération européenne s'est créée il y a 25 ou 30 ans, de façon formelle il y a 22 ans, parce que au moment du début de l'aventure européenne, français, italiens, allemands, qui avaient eux-mêmes des associations familiales catholiques, ont éprouvé le besoin de se rencontrer pour comparer, pour comprendre, pour voir quels étaient les aspects historiques et culturels qui pesaient sur la politique familiale des ces pays, et puis, elles ont éprouvé le besoin de se donner un statut juridique, d'abord pour aller travailler au Conseil de l'Europe, qui d'ailleurs avait prévu ça, puisqu'il y a à l'intérieur du Conseil de l'Europe une place pour les ONG, qui, pour bénéficier d'un statut participatif, doivent montrer des aptitudes, mais enfin, ça existait. Nos associations se sont développé au fil du temps, et bien sûr après 90 nous avons accueilli les associations familiales catholiques d'Europe de l'Est, naturellement très différentes, mais pour certaines très actives, pour beaucoup émanant de l'Église elle-même. Ce sont les évêques qui ont dans ces pays-là incité à des mouvements de soutien à la famille, puisque l'État ne le faisait pas, et préserver l'essentiel. Ce dialogue avec l'Europe de l'Est est aujourd'hui pour nous très précieux. L'approche des élections européennes nous a conduit, dans le contexte que j'ai décrit, à rédiger un manifeste qui s'inspire beaucoup de la charte des droits de l'homme proposée à l'Union européenne par le pape Jean-Paul II, un manifeste qui est une liste de 10 points, une espèce de décalogue, qui est proposé à la signature des candidats à l'élection européenne, comme une sorte d'engagement à soutenir la famille dans toute la législation européenne et au fond à renverser la tendance. Notre rêve, ce serait de réussir ce qu'ont parfaitement réussi les écologistes. Rappelez-vous, il y a 30 ou 40 ans, l'écologie, c'était l'affaire de quelques farfelus, sympathiques, mais enfin pas pris au sérieux. Quand ils ont voulu devenir un mouvement politique, tout le monde a rigolé. Et puis, depuis, tout le monde constate qu'il y a une responsabilité de l'homme. Je ne dis pas forcément sur le climat, tous les débats sont permis, mais en tout cas sur l'épuisement des ressources de la planète. Et que si tous les hommes qui sont sur cette planète consommaient autant que nous, occidentaux, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus aucun renouvellement. Et bien en face du déclin démographique, en face du déclin de la famille, en face d'une humanité qui perd son sens culturel, nous avons le rêve qu'en étant aujourd'hui des petits farfelus qui défendent la famille, nous puissions réussir à faire prendre en compte la nécessité pour la société de s'intéresser à la famille au même titre qu'elle s'intéresse à l'écologie. Aujourd'hui, plus aucun homme politique ne peut faire un discours sans faire une référence à l'écologie. Eh bien, nous voulons qu'aucun homme politique ne puisse faire un discours sans faire référence à la famille. Parce qu'après tout, c'est à cause de nous qu'ils sont là, ou plutôt grâce à nous. Ce manifeste que dont on a tiré quelques exemplaires et que on peut se produire sur notre site internet, évidemment qu'il y a un nom anglais, puisqu'il est destiné à toute l'Europe, il est traduit dans toutes les langues de l'Union européenne, il est présenté en même temps par les associations familiales catholiques à tous les candidats dans l'Union européenne. Il porte en 10 points. Le premier, vers un pacte européen pour la natalité. Tous nos pays européens sont touchés par l'urgence silencieuse d'un hiver démographique. L'Europe a besoin d'un printemps démographique. Nos enfants sont notre premier bien commun. Je m'engage, ça c'est le député signataire, à attirer l'attention sur le déclin démographique en Europe en proposant des mesures concrètes et des instruments politiques pour inverser la tendance. J'insiste, je lis intégralement ce premier point parce que c'est pour nous le point de départ. Cette conscience qu'a essayé de réveiller la Fondation Robert Schuman, mais sans succès, il faut la mettre en premier point. Deuxièmement, mettre en œuvre le family mainstreaming. Je suis désolé, mais nous avons été incapables de traduire ça en français. Ça veut dire demander que toute mesure législative ou toute décision soit, avant d'être prise, analysée dans ses effets sur la vie quotidienne des familles. Troisièmement, faire entendre la voix des familles, c'est-à-dire faire participer à la réflexion et à l'élaboration de la législation, les associations familiales qui représentent les familles, naturellement toutes les associations familiales, autant qu'on pourra en créer, il est souhaitable qu'il y en ait une dans chaque village, à vrai dire. Quatrièmement, nous voulons une économie au service de la famille, parce que les familles sont source de résilience pour les sociétés et que par leur rôle social, elles permettent de réduire les contraintes qui pèsent sur les finances publiques. Il faut donc que l'économie soit au service des familles et non pas l'inverse. Il faut un travail digne et productif qui est nécessaire pour chaque famille, c'est le point numéro 5. Nous demandons que le marché du travail ne soit pas abordé sous l'angle exclusif de l'économie et de la finance, mais d'abord en considérant la personne et ses talents, capables de contribuer au bien commun et de prévenir la pauvreté. Alors comment on va du plus simple au plus difficile? On passe évidemment par l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, avec juste cette petite remarque de ma part. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on parle, y compris en Europe, de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Mais depuis 3 ans, on ne parle plus de vie familiale. On parle de vie professionnelle et vie privée. Il y a des lobbies très puissants qui s'acharnent à supprimer même le mot famille de toute la législation. 7. Reconnaître la complémentarité de l'homme et de la femme. La famille est le premier lieu d'ingénierie créative pour toute la société. Je reconnais la complémentarité de l'homme et de la femme et m'opposerai à toute politique qui tenterait de gommer la différenciation sexuelle. C'est dit de façon soft, mais c'est dit. Respecter et protéger l'institution du mariage. J'ai dit qu'on allait du plus simple au plus difficile pour nos amis députés. Neuvièmement, respecter la dignité de l'être humain jusqu'à sa mort naturelle. Et enfin, dixièmement, puisque le dixième point doit être le plus important, père et mère, premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, les familles s'inscrivent toujours dans une perspective de long terme. Qui pense à l'avenir mieux que des parents? Qui sait que les enfants qui naissent aujourd'hui seront encore présents au prochain siècle? Les familles. Je m'assurerai que les programmes de l'Union européenne en faveur des jeunes respecteront et protégeront le droit des parents à diriger l'éducation de leurs enfants, conformément à leurs traditions culturelles, morales et religieuses, qui visent leur bien et leur dignité. Voilà donc pour ce manifeste qui a trois objectifs. Le premier, c'est d'essayer de créer du débat pendant la campagne. Si par hasard il y a une campagne, je ne sais pas chez vous, mais enfin en tout cas en France, elle n'a pas démarré, ça c'est bien clair. Et il y a un gros risque qu'il n'y ait pas de campagne. Faire émerger ce thème dans le débat. Deuxièmement, informer les électeurs des positions réelles des candidats sur un sujet comme celui-là, et donc nous rendrons public le 15 mai, en même temps dans tous les pays d'Europe, la liste des signataires, donc une semaine avant le vote. Mais troisièmement, ça nous permet aussi d'identifier ceux des candidats qui auront signé, et en espérant qu'ils soient élus, pour commencer à constituer un groupe de travail et créer un intergroupe, comme la loi le permet, un intergroupe parlementaire à l'intérieur du Parlement européen sur le thème de la famille et commencer à travailler toutes ces questions, à commencer naturellement par le pacte sur la natalité. Nous avons quelques espérances. Je voudrais citer deux exemples. Nous avons été invités dans le courant de cette année par un petit parti politique aux Pays-Bas qui s'appelle SGP, qui fêtait son 100e anniversaire. Le thème du 100e anniversaire de ce parti politique, c'était « Family First ». Et nous revenons d'une conférence internationale organisée par la Hongrie, à Budapest, sur le thème, pardon, le thème était en anglais pour qu'il soit vraiment international, « Shift towards a family-friendly Europe », mouvement vers une famille, une Europe favorable à la famille. Je considère que c'est une bonne nouvelle. Alors on pense ce qu'on veut de M. Orban pour d'autres raisons, mais sur le plan de la politique familiale, la Hongrie, depuis plusieurs années, a mis au point un arsenal de mesures de soutien à la famille. C'est la première priorité du gouvernement hongrois et ça a des effets immédiats. Ça a créé une dynamique, c'est celle qu'on voudrait bien voir à l'œuvre partout, parce que maintenant, les municipalités, mais aussi les entreprises, se montrent favorables à la famille. Des chefs d'entreprise, au long de ces deux jours de symposium, nous ont expliqué qu'aujourd'hui, pour attirer les gens, ils n'en étaient plus à proposer des salaires supérieurs à la concurrence, mais proposer des aides et de soutien à la famille, parce que c'est ça que veulent les gens. Donc si seulement on faisait ce que voulaient les gens, beaucoup de nos problèmes seraient réglés. La famille, elle est une ressource pour les grands problèmes que traverse l'Union européenne aujourd'hui, qui sont le travail, l'éducation, la démographie, l'écologie, l'environnement et les migrations. Qui peut accueillir des migrants sinon des familles? C'est pas la peine de rêver. Le problème des migrants étant extrêmement compliqué, j'en parle à dessein juste après avoir parlé de la Hongrie. Mais voilà des sources d'espérance pour nous. Mais je voudrais dire aussi que notre grande, certes, alors je ne sais pas si nous allons réussir quelque chose, évidemment, mais je suis sûr d'une chose, c'est que la famille ne disparaîtra pas. Parce que la famille, elle est inscrite au cœur du projet de Dieu. Et ça, on le sait de façon sûre. D'abord parce qu'il l'a dit, dans la Genèse, homme et femme, il les créa, à son image et à sa ressemblance, il les créa, ça veut dire que c'est la famille qui est à l'image de Dieu, Dieu qui est lui-même une famille, puisque c'est un Dieu trinitaire. Non seulement il l'a dit, mais comme le fait remarquer très astucieusement le pape François, il l'a fait. quand Dieu a visité son peuple, il n'est pas venu comme un général à la tête d'une armée ou comme un roi dans un château, il est venu en Jésus comme un bébé dans une famille. Et je voudrais, pour finir, vous dire que nos chances sont réelles, mais qu'il y a quand même un certain nombre de conditions. J'entends beaucoup d'hommes politiques qui aujourd'hui prennent un peu conscience de ces choses et dire, ben oui, mais il faut remettre l'homme au cœur du projet politique, au cœur du projet européen. Oui, d'accord, mais c'est encore insuffisant. Il faut mettre l'homme et la famille qui lui transmet la vie, mais surtout pour nous chrétiens, il faut mettre le Christ au sens de cette affaire. Le Christ qui nous a pas dit « Sans moi, vous obtiendrez que des résultats limités ». Il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. » Bon. Mais il n'a pas dit non plus qu'il ferait tout. Alors je voudrais, pour finir, me permettre le luxe de vous citer un auteur français, Jean d'Ormesson, académicien, qui dans son dernier livre « Un hosanna sans fin », conclut ce livre qui est le résumé de ce qu'il a appris dans sa vie et de ses réflexions sur l'histoire, la création, le monde, où allons-nous, etc. Il y a une certaine angoisse d'ailleurs dans son propos. Il finit son livre par ces mots « Les chrétiens ont de la chance, parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais Jésus, c'est un personnage historique, et là on peut s'appuyer là-dessus. » Voilà ce que dit Jean d'Ormesson, qui se disait pourtant lui-même agnostique. Je vous remercie de votre attention.